Hors champ, bonjour à toutes et à tous. Hors champ aujourd'hui avec Arlette Farge. Arlette Farge, vous êtes historienne, écrivain, j'allais dire écrivain-historienne, parce que les deux se retrouvent à égalité quand on lit vos nombreux livres. Le plaisir de la lecture est intense et je crois que c'est une immense qualité en histoire. Vous êtes l'auteur de nombreux livres ayant trait plus particulièrement au XVIIIe siècle, à des thématiques qui ne sont pas usuelles. On reviendra sur votre parcours. Vous êtes connu des auditeurs de France Culture, puisque vous avez travaillé au Lundi de l'Histoire pendant très longtemps et qu'on peut vous entendre régulièrement dans l'émission d'Emmanuel Laurentin, La Fabrique de l'Histoire. Mais je voudrais revenir au tout début de votre histoire, si j'ose dire, personnelle. En fait, vous vouliez pas faire d'histoire.
J'étais orientée, contre ma volonté, sur des études de droit. Et donc, dans les études de droit, la seule chose qui m'intéressait, c'était le droit pénal. Et je me suis dit, bon, je vais être juge pour enfants. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que je me suis vraiment énormément ennuyée dans les études de droit. C'était vraiment pas mon affaire. Bon, je m'ennuyais beaucoup. J'ai poursuivi jusqu'à un DEA, ça s'appelait à l'époque. Et après, j'ai rencontré une professeure de droit qui m'a dit « Mais vous n'êtes pas faite pour le droit, il faut trouver autre chose. Vous êtes plus fantaisiste que le droit. » Alors bon, plus fantaisiste que le droit, c'était sans doute vrai, mais il fallait s'orienter autrement. J'en étais totalement persuadée et je voulais plus après faire de droit. Et c'est par des rencontres que j'ai pu bifurquer et j'ai eu envie de faire de l'histoire.
Et comment ?
J'ai eu envie de faire de l'histoire parce que déjà dans le DEA, j'avais choisi la section histoire du droit. Donc il y avait quelque chose qui me poussait. Je pourrais pas vous dire quoi, parce qu'il y avait rien ni dans ma famille, ni dans mon entourage qui pouvait me faire aller vers l'histoire. Mais je crois que la seule chose qui m'est plu dans les études de droit, ça a été l'histoire. Donc je me suis dit, allons vers l'histoire du droit. Pourtant, c'est sévère, l'histoire du droit. Mais voilà, cette année-là m'a ouvert sur ce que pouvait dire l'histoire de nous, dire l'histoire du passé. Et voilà, et j'ai donc bifurqué vers l'histoire en rencontrant Robert Mandrou à l'époque, ça remonte, hein, et qui m'a pris très gentiment et qui était le directeur de ma thèse à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça.
Et vous êtes partie aux États-Unis et de ce séjour américain, il en est resté quelque chose.
Je suis partie, mais alors à ce moment-là, j'avais pas de poste, j'avais pas de statut universitaire encore. Je préparais ma thèse. Il m'en est resté. J'étais au moment où à Cornell University, il y avait les Black Panthers qui étaient là à l'époque. J'ai rencontré beaucoup de monde avec beaucoup de chance et c'est là sans doute que je suis. C'est pas là sans doute, c'est là bien sûr que je suis devenue, j'ai milité pour le féminisme de façon très forte, peut-être plus encore que si j'avais été dans mon pays, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui joue dans cette espèce d'anonymat qui fait que voilà, on part vraiment dans une nouvelle réflexion absolument passionnante qu'on n'a pas trouvé, qui n'était pas encore là en France. Et donc, il y avait un climat très particulier à Cornell University. Et en plus, il y avait ce miracle des bibliothèques américaines que vous devez connaître, qui fait qu'on entre dans la bibliothèque et qu'on peut choisir les livres absolument comme on veut, sans remplir je ne sais combien de fiches et de cotes. Et je sais que c'est là que j'ai vraiment eu beaucoup de bonheur. En plus, je venais d'avoir un enfant tout petit. Enfin, bon, c'était vraiment très bien. Et c'est là que j'ai terminé. Enfin, je ne sais pas si j'ai terminé à ce moment-là, mais enfin, c'est là que j'ai... Ah non, je n'ai pas terminé à ce moment-là. Mais enfin, c'est là que j'ai beaucoup travaillé sur ma thèse, mais pas sur les manuscrits, bien sûr, mais sur à ce moment-là, sur sa problématique, en tout cas, grâce au livre qui m'entourait.
Alors, votre premier ouvrage s'intitule
Le vol d'aliments. C'est la thèse. Le vol d'aliments à Paris au 18e. La Capucine, c'est le dernier, qui est fait avec une artiste. Parce que c'est ce qui m'arrive en ce moment, depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a des artistes ou des photographes qui sont venus vers moi. Une artiste qui fait de la gouache, que je ne connaissais pas, Valérie Duchesnay, qui est venue me demander, elle m'a dit un jour, je reçois un mail, je voudrais dessiner vos archives. Je me suis demandé ce que ça voulait dire. Et quand j'ai compris qu'elle voulait venir aux archives, on a passé 3 semaines ensemble, toutes les deux. Elle a déchiffré, ce qui est difficile quand même. Je l'ai aidée à déchiffrer des procès-verbaux, des interrogatoires. Elle s'est passionnée et on a fait un livre ensemble, elle avec des gouaches et moi avec des textes qui accompagnaient ces gouaches.
Mais comment peut-on dessiner des archives ?
Eh ben, c'est-à-dire, en fait, elle choisissait. C'est un fait divers, si vous voulez, dans les archives de police. C'était celui-là qui lui parlait le plus. Et elle dessinait l'événement qui se passait. C'est-à-dire si, par exemple, ça pouvait être... Par exemple, il y a une femme trouvée dans la rue parce qu'elle est complètement en état d'ébriété, enceinte, etc. Bon, ben, elle a dessiné la foule autour, etc. Et puis, moi, je faisais des textes autour. Mais ça, c'est tout récent. C'est pas mon vrai travail, si. Mais c'est ce que maintenant, j'ai le bonheur, effectivement, de travailler avec ou des photographes. Valérie Jouve, par exemple, avec qui j'ai travaillé pour sa dernière expo. Mais c'est tout à fait différent de ce que fut le début. Le début, c'était la thèse, plutôt.
Mais le sujet de la thèse reste dans la même thématique que vos travaux de recherche aujourd'hui.
De toute façon, c'est.
C'est-à-dire si découvrir des types d'événements qui n'étaient jamais mis en avant. S'intéresser à des personnes qui n'étaient jamais sujets de l'histoire parce que considérées comme trop marginaux et trouver une densité et une chair au passé à partir d'archives très rarement consultées.
Oui, absolument.
C'était ça le départ.
Et ça reste
ça encore aujourd'hui.
Le départ, c'est ouvrir des archives que personne n'a encore ouvertes. Ça, c'est vraiment... Je m'en rappellerai toute ma vie, de la première fois où je dois ouvrir des liasses qui sont à l'époque encore assez mal conservées. Maintenant, les archives sont devenues un peu un joyau et de la bibliothèque de l'Arsenal et des archives nationales. Mais au début, c'était vraiment des liasses mal conservées, grignotées par les souris, etc. Parce que c'était des archives de peu, comme je dis, c'est-à-dire sur des gens de peu.
Vous êtes l'auteur notamment de ce livre qui s'intitule « Le goût de l'archive ».
Oui, et donc effectivement, quand j'ai ouvert au début, j'ai ressenti un flux d'informations auxquelles je ne m'attendais pas et qui n'avaient pas été regardées encore par les historiens. Et j'ai pas choisi, je me suis engloutie dedans avec passion.
Mais c'est pas par hasard quand même qu'on trouve des archives inédites.
Si vous voulez, c'est grâce à Robert Mandrou qui à ce moment-là avait travaillé sur la sorcellerie et qui savait qu'il y avait toutes ces archives aux archives nationales sur les archives de police et qu'elles avaient été très peu ouvertes. C'était tout à fait le début. Après, d'autres sont venus, bien sûr, heureusement, parce que ça représente des kilomètres de travée, vraiment les archives. Ces archives manuscrites. Tout de suite après, j'ai écrit, je crois, « Vivre dans la rue » à Paris au XVIIIe siècle. Voilà. Et puis, « Le goût de l'archive », en effet. Je ne savais pas d'ailleurs que ce livre aurait tant de succès, parce que je l'ai écrit vraiment, j'allais dire, au fil de l'eau, non au fil des archives, quoi, parce que c'était un tel... c'était un voyage, vraiment. Et il me semble que j'ai fait, sans le savoir, une sorte de immense voyage dans des domaines qui n'avaient pas encore été des objets d'histoire. Et voilà, et c'est la faute des archives. Je ne m'en tiens pas, j'en suis pas plus orgueilleuse ou fière que ça. C'est vraiment les archives qui m'ont conduite.
En tout cas, vous avez inventé un style à la fois historiographique et littéraire qui fait que nous, lecteurs, quand on lit vos ouvrages, on a l'impression, effectivement, de faire ce voyage avec les archives. Mais j'imagine que pour pouvoir embarquer sur ce bateau très compliqué des archives, d'abord, faut pouvoir les trouver, faut savoir les trouver. Ensuite, faut savoir les décrypter.
Oui.
comprendre qu'il s'agit de personnes qui, elles-mêmes, n'ont pas pu écrire leur propre histoire, oui. Donc décrypter la manière dont est consignée une histoire qui n'est pas la sienne propre. Donc comment on apprend toute cette méthodologie? Est-ce que ça se fait, comme vous dites, au fil de l'eau ou est-ce que c'est l'expérience?
Ça se fait pas qu'au fil de l'eau parce que, bien sûr, on est guidé par des séminaires, des professeurs, etc. Mais c'est aussi parce que à partir du moment où on entre dans la parole de l'autre, et l'autre étant celui qui n'a pas de culture, qui ne sait ni lire ni écrire, on se met à entendre tout un monde que les historiens ne connaissaient pas encore. Et donc... c'est une espèce d'écoute. Alors, il y a vraiment deux pièges qui apparaissent très vite, mais dont il faut se défaire. C'est premièrement, surtout, ne pas prendre toutes ces paroles, tous ces événements, tout petits événements, parce que moi j'avais choisi les petits événements, une rixe dans la rue, une dispute conjugale, des choses vraiment petites. À partir de là, non pas tant faire une anecdote et décrire, mais entrer à la fois dans les imaginaires, les croyances, les opinions, la pensée des autres, parce que sur un autre plan, moi j'étais imbibée de évidemment de ce qui s'écrivait, enfin d'une part de l'historiographie sur le XVIIIe siècle et d'autre part de ce qui était écrit par les élites et où ce peuple, puisqu'il s'agit du peuple, était totalement ignoré, considéré comme inepte, imbécile, etc. Donc tout d'un coup, je suis vraiment à l'écoute de gens qui pensent, qui parlent, qui vivent, qui souffrent en général, qui ont aussi beaucoup de joie, beaucoup de moments d'effervescence. C'est un siècle très sensuel, très effervescent, très, très touchant en ce sens-là, même s'il est miséreux. Et c'est une image des Lumières qui n'est pas si apparente à cette époque-là. Donc moi, voilà, ça c'est le premier piège, c'est de ne pas en faire des anecdotes, mais une interprétation, c'est-à-dire articuler toujours ces vies-là qui sont là devant moi, ces interrogatoires, ces témoignages, avec le système social et politique de l'époque, jamais les séparer, jamais en faire, oui, comme je vous disais, on me disait, t'as qu'à écrire un roman, j'avais pas envie d'écrire de roman. Et le deuxième piège, qui m'appartient à moi à cause de ma personnalité, c'était l'émotion que je ressentais. Et ça a été, je dois le dire, je pense que maintenant... Bon, je suis contente de voir que beaucoup de gens travaillent sur l'émotion parce que au début ça a été pour moi un handicap énorme par rapport à l'attitude en général. Hein, je vise personne en particulier. Des historiens, l'émotion c'est ce qui contredit pour eux la rationalité. C'est ce qui vient amener quelque chose d'irrationnel et de trop sensible. Et on s'en méfiait beaucoup, d'autant que j'étais une femme, ce qui arrangeait rien, et que j'étais dans des milieux féministes à l'époque. Mais heureusement,
on vous a critiqué au début de trouver ce champ nouveau,
oui,
historiographique.
On m'a critiqué, c'est un milieu qui est quand même très feutré, mais ça n'a pas été reconnu du tout. Enfin, j'étais vraiment solitaire, je dois le reconnaître. Il y a après la rencontre avec Michel Foucault, effectivement, qui change tout dans ma vie, c'est sûr. Il y a un moment de bascule, mais bon.
Pourquoi ?
Je m'y attendais pas. Je le connaissais pas, je suivais pas ses séminaires ni ses cours et je reçois une lettre où il me demande si je veux bien travailler avec lui sur des archives qui sont des demandes d'enfermement de famille, des lettres de cachet, c'est-à-dire des parents qui demandaient l'enfermement de leur fils et qui s'adressaient au roi. J'avais pas encore beaucoup publié et j'étais très étonnée de cette demande. Et ce qui a été très fort dans cette rencontre et dans l'écriture avec lui de ce livre, Le désordre des familles, ça a été justement que lui, il disait toujours, il l'avait dit déjà dans les cahiers de la NRF en 75, qu'il ressentait à la lecture des archives ce qu'il appelait, lui, c'était plus fort encore que moi, une vibration physique que les nouvelles littéraires ne lui donnaient jamais. Et moi, ces échanges avec lui, et puis l'écriture avec lui, ça m'a encore plus convaincue que bon, puisqu'il était Foucault qui se permettait des émotions, je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas me les permettre. Et de réfléchir ensemble à ce statut de l'émotion. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est quand même une forte rencontre. Malheureusement, peu de temps avant sa mort.
Mais alors justement, figurez-vous que dans les archives de France Culture, nous avons retrouvé un entretien que vous avez fait avec Michel Foucault. justement à propos de l'importance des lettres de cachet. C'était dans les lundis de l'histoire. On va vous écouter avec Michel Foucault. C'était le 31 octobre 1994.
Ce qui m'avait frappé, c'était la chose que vient de dénoncer Arlette Farge, à savoir que la lettre de cachet est une pratique populaire. Est une pratique populaire en deux sens. D'abord parce que ce sont surtout dans les milieux populaires qu'on voit ce mécanisme jouer, et d'autre part parce que c'est la lettre de cachet est demandée d'en bas. C'est un processus qui va de bas en haut. On demande une lettre de cachet au roi pour régler un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes de famille, des problèmes de voisinage, des problèmes d'entourage, des problèmes de travail aussi. Et puis, une seconde chose m'avait frappé, c'était l'extraordinaire beauté de ces textes. Parce que, d'une part, bien sûr, on y voit des conflits, des problèmes, des angoisses, on y voit des colères, on y voit des émotions, et il est finalement assez rare de voir la dimension de l'émotion se traduire immédiatement dans des textes. Ce sont les haines familiales, ce sont les rancœurs, ce sont les jalousies, ce sont les peurs, ce sont les angoisses. Et d'autre part, ces documents montrent un très curieux, comment dire, juxtaposition disparate de langage. Dans la mesure où les gens font passer dans ces demandes de lettres de cachet, eh bien, leur propre langage, ils disent leurs émotions dans leur langage, mais il y avait toujours derrière eux un écrivain, enfin, il y avait souvent derrière eux un écrivain public ou quelqu'un en tout cas qui les aidait à rédiger et qui le rédigeait dans ce style administratif, emphatique, superbe et drapé de l'époque.
Alors, on vient de vous entendre, Arlette Farge, interviewer Michel Foucault. On peut dire que beaucoup de choses, finalement, vous différencient de Michel Foucault.
Ah oui, oui.
À la fois votre écriture, vos champs de recherche, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Michel Foucault, effectivement, sédimentait des tas de connaissances en lisant certaines archives pour établir des grandes structures. Et vous, vous faites votre miel et le nôtre aussi en partant, soi-disant, de menus faits pour nous faire revivre avec une intensité particulière ces faits du passé. Comment arrivez-vous à faire la différence entre justement ce qu'il vient de dire, l'écrivain public qui va consigner ce que les personnes veulent exprimer, et la réalité de ce qui a été vécu? Est-ce que c'est difficile, ça? Parce que quand on vous lit, on a l'impression effectivement de lire des romans vrais.
Oui, c'est difficile parce que là, ce qu'il explique, c'est qu'en effet, la lettre, elle commence, l'écrivain public, il dit « Sire, votre majesté, je me mets à vos genoux », etc. Après ces trois premières lignes, il écoute et c'est en effet un langage oral qui est là. C'est-à-dire la femme ou l'homme ou le fils explique de façon orale. Donc c'est pour ça qu'il dit « On entend leur langage » et c'est vrai que c'est très très étonnant. Il parle à toute allure d'ailleurs, donc l'écrivain public doit aller très vite, c'est sans ponctuation. Toutes les turpitudes qui leur sont arrivées, tout leur malheur, toutes leurs émotions, etc. Puis à la fin, c'est terminé, la supplique est terminée, et donc l'écrivain public, il va écrire que bien sûr, sire, et à nouveau vous aurez une comme nous, comment ça s'appelle, à la fin des lettres, on fait des salutations distinguées, etc. Bon, et lui, c'est vrai que il trouvait ça, et il était rentré dans cette esthétique, enfin il avait ressenti cette esthétique de deux mondes, celui, l'écrivain public qui connaît les codes des élites, et puis ces personnes qui, à l'oreille de l'écrivain public, racontent dans leur langage. Donc on retrouve le langage de ces gens-là, et non seulement on retrouve le langage, mais on retrouve leur souffle, on retrouve leur type d'émotion, on retrouve leurs sanglots. Bien sûr, moi je pense bien qu'il ne faut pas se laisser piéger non plus par tout ce qui est dit là, ce n'est pas, la vérité n'existe pas, même pas dans l'archive. Donc il faut après, étant donné qu'il y a énormément pendant 50 ans de lettres, de demandes d'enfermement de famille, on a la possibilité effectivement de travailler en voyant tout ce qui ressort et tout ce qui est en commun dans ces malheurs là, et dans cet attachement en même temps au roi, puisqu'on pense qu'il n'y a que le roi qui puisse être capable de vous comprendre, ce qui donne une situation intéressante. Donc après, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut beaucoup de réflexion pour pas se laisser aller à une espèce de, ben oui, un roman vrai. Moi je veux bien vous entendre, je pense que c'est pas voilà, mais c'est pas un roman. C'est-à-dire que, et moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire toujours écho avec le présent, c'est-à-dire avec tout ce qui est invisible pour nous. Par exemple, je pense toujours aux mains courantes aujourd'hui dans les commissariats de police. Ils sont évidemment plus administratifs, hein, je pense, que quand le greffier prenait les paroles. Mais quand même, c'est comme l'avait fait Depardon dans ses films, dans Délit flagrant, ou dans d'autres films, c'est quelque chose de magique, j'allais dire, d'être là, près de la parole de gens qui
sont... Au fond, c'est ça qui vous intéresse. C'est capter la réalité, le pouls de la société dans ces événements dits minuscules pour expliquer les mécanismes de cette société.
Oui, et puis ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'espoirs...
Ce qui vous intéresse, c'est ce qui n'intéresse pas les autres aussi.
Oui, le nombre d'espoirs, d'hésitations, de l'importante culture aussi, parce que j'avais voulu écrire un petit livre sur les écrits que portaient sur eux les gens du peuple, donc des gens morts, qu'on trouve morts sur la route, et donc les greffiers à la police notent tous leurs habits, bien sûr, et puis aussi ce qu'ils ont dans les poches, et on s'aperçoit que ces personnes absolument qui sont des, voilà, mais même vraiment, ou des mendiants, ou des personnes échappées de l'hôpital, ou des gens absolument non cultivés, en fait, qui sont très loin de l'écrit, eh bien, on n'avait jamais pensé, nous, historiens, qu'ils pouvaient avoir un rapport avec l'écrit très fort, c'est-à-dire qu'ils ont sur eux des papiers, ils ont sur eux des prières, ils ont sur eux une page déchirée d'un livre, peut-être qu'ils ne savent pas la lire. Peut-être qu'ils veulent la lire, puisque quand même à cette époque, ça commence à, l'alphabétisation commence à reprendre de l'importance. Et moi, c'est tous ces petits gestes qu'on ne peut pas savoir si on n'est pas plongé, immergé dans ce type d'archives, qui sont pour moi très importants, parce que je pense qu'ils donnent du présent. Ils ont souvent, et souvent les choix d'objets que j'ai faits à travers les archives correspondaient à un temps bien particulier. L'opinion publique, par exemple, c'était bien influencé par Jacques Rancière pour avoir leur pensée, etc. Après, j'ai travaillé sur la voix, parce que c'était un moment où ça m'intéressait beaucoup. Et, faut dire, c'était un défi de trouver la voix dans les archives de police.
Justement, dans ce livre sur la voix, en vous lisant Arlette Fage, on s'aperçoit que Paris est très, très, très bruyant. Les gens gueulent tout le temps.
Ah ben, comme des fous. Oui, parce qu'il y a en même temps la musique, les tambours, il y a les cloches, il y a les sonnettes des curés qui viennent apporter les sacrements de pénitents, mais il y a aussi les marchands, tout le monde vit dehors, donc il y a un bruit absolument fou, et on retrouve
Paris pue aussi.
Ah ouais, c'est terrifiant même. Ça pue, c'est dégoûtant. En tout cas, certains quartiers sont absolument dégoûtants, même s'il y a des jardins, bien sûr. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Moi, ce que je trouvais toujours très particulier et qui était difficile à travailler, c'est que on établit, il vient très vite une familiarité. Et puis, un immense
Vous êtes avec.
Oui, je suis avec, et en même temps, je suis très loin, quoi. Il y a familiarité, dépaysement, et c'est dans cet espace que je me promène, que j'essaie de travailler. Mais oui, c'est bizarre.
Vous travaillez quoi, alors, à partir du moment où vous exhumez certaines archives qui vont constituer une sorte de trame sensorielle et historiographiquement, scientifiquement établie? Est-ce que vous partez avec des personnages? Est-ce que vous avez des visions? Est-ce que des choses s'assemblent? Parce que quand on relit un peu systématiquement l'archéologie, si j'ose dire, de votre travail et de vos différentes publications, on a l'impression que de plus en plus, le peuple s'assemble, les rues sont de plus en plus animées, les lumières de la ville s'allument, la densité des voix augmente, et que tout ça compose un tableau de Paris, sans faire de mauvais jeu de mots par rapport au texte de Louis-Sébastien Mercier.
Mais je crois que c'est vrai que j'ai une approche visuelle, parce que les archives sont extraordinairement visuelles. Elles décrivent les habits, elles décrivent les gestes, elles décrivent, comme je le disais tout à l'heure, les objets que les gens ont sur eux. Donc c'est vrai que j'ai une approche visuelle au départ. Après, le plus gros problème auquel je me confronte, c'est celui de l'écriture, de l'histoire, parce que j'ai envie, en tout cas, et puis de ça je suis tellement reconnaissante à Foucault, j'écris évidemment pas comme lui qui écrivait de façon si somptueuse, mais je sais que l'écriture a une telle importance que j'essaie de retrouver non pas la mélodie du XVIIIe siècle, ça serait complètement idiot, mais de trouver un rythme à moi un rythme de mon écriture qui puisse correspondre peu ou prou à ce que vous venez de décrire. Un monde en effervescence, un monde de bruit, de lumière, et aussi un monde de secrets, un monde de...
Un monde de désir aussi, de parce désir, qu'on n'a pas parlé de, des
oui,
femmes,
de sexualité, d'amour.
Dont vous parlez beaucoup, beaucoup,
oui,
beaucoup.
Oui.
Et rarement, comme dans vos livres, on s'aperçoit de la possibilité de l'expression de la sensualité de la femme au XVIIIe
oui,
siècle.
Oui, je vais peut-être dire quelque chose d'iconoclaste, mais parce que je suis féministe, mais en même temps, j'ai toujours trouvé que le XVIIIe siècle était, par moments, un siècle extraordinairement d'approche sensuelle très forte, que les hommes et les femmes se touchent facilement dans le milieu populaire. Que alors, il y a des seuils à ne pas dépasser et qui sont très inscrits dans les mœurs, mais il y a une gestuelle et il y a vraiment une possibilité, enfin une rencontre journalière dans les rues, comme sur les chemins de halage, comme sur la Seine, qui sont constantes. Et puis, il y a
les
désirs.
Faire des déclarations
femmes.
Aux
ah,
hommes.
Ah ouais. Et puis elles sont partout, elles sont dans les tavernes. Au 19e, elles y seront plus. Je veux dire, il y a. Bon, alors.
Pourquoi ?
Après, il ne faut pas aller trop loin dans ce côté-là, parce qu'après, il y a aussi énormément de violences, des viols et mauvais traitements. Mais bon, il y a des choses.
Et pourquoi, à votre avis, cette explosion de sensualité, de prise de conscience
que,
de son propre corps ?
Parce que le siècle. D'abord, les élites elles-mêmes, le jeu libertin, il est là, il est présent, il est connu de tous, il est vu, puisque les carrosses et les gens des hôtels du Marais, ils se baladent dans Paris, vont au théâtre, les peuples les voient. Je dirais, ils ne vivent pas confinés à Versailles. Ils sont aussi... et puis, il y a aussi, même si on n'est pas cultivé, on sait qu'on est dans une civilisation du progrès qui croit à beaucoup de choses. Les philosophes des Lumières, même s'ils ne sont pas lus, ils irradient un peu quand même l'ensemble de la population, du commissaire, enfin ça fait toute une hiérarchie, ça descend, donc il y a une... Tandis que le 19e, l'espace va changer d'abord, l'espace du 19e il va être beaucoup plus contraint, l'espace du 18e c'est un grand foutoir, si je peux me permettre cette expression, donc on peut y vivre en s'y échappant, en se cachant, en lutinant, ou en se battant, ou en se tuant, mais le Haussmann, ça donnera quelque chose de beaucoup plus sévère, beaucoup plus difficile, l'industrialisation aussi, avec la femme pouvant beaucoup moins facilement entrer dans cette industrialisation, surveillant son mari. Pourtant, Michel Perrault nous le fait vivre de façon merveilleuse, mais le 19e, c'est sombre pour moi par rapport au côté éclatant et lumineux d'un 18e pourtant si miséreux.
Dernière question, Arlette Farge. Vous avez écrit un livre magnifique sur l'écriture de soi. Quand allez-vous écrire sur vous ? Au lieu de passer votre vie à écrire sur les autres.
Mais moi, j'ai rien. Enfin, moi, je suis moi. Enfin, je veux dire, je suis une passeuse. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive sur moi ? J'ai rien à dire. Je suis rien. Enfin, je fais de l'histoire.
Ben, merci beaucoup, Arlette Farge, pour le plaisir que vous nous donnez.
Merci à vous surtout, Laure. Merci.
Merci Arlette Farge, vous avez publié de nombreux livres. Le dernier s'intitule « La capucine s'adonne au premier venu ». Il y a aussi « La déchirure »,« Un ruban et des larmes », »,« Essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle », »,« Le silence »,« Le souffle »,« Quel bruit ferons-nous ?»,« Le bracelet de parchemin »,« La nuit blanche »,« Les dahlias sont rouges », »,« Évidemment le goût de l'archive » et bien d'autres. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, merci à Samuel Bernard, Élodie Royer, Corinne Amard, Jehan Richard Dufour et Véronique Villas.